Radio Starberg.
Morning edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
L'escale reportage d'un jour dans le monde vous emmène ce soir dans les coulisses des late shows américains. Ils existent depuis des décennies, ils n'avaient jamais été aussi politiques. C'est Trump qui a changé cette teneur-là. On verra comment. Ce soir, Florence Paracoulos nous emmène notamment au cinéma en Russie et sur le yacht de Tito, un vieux yacht forcément. 18h45, les médias dans le monde et Alexandra Akoun avec notamment le fameux palmarès des fake news de Donald Trump qui a plutôt fait flop. 19h55, l'édito de Corinne Laine du journal Le Monde dans les parcs nationaux qui sont en guerre contre Starbucks ce soir. Mais tout de suite, l'état des droits de l'homme dans le monde avec Human Rights Watch et son directeur.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Tous les ans, donc, l'ONG Human Rights Watch, la plus grande ONG en matière de droits humains, dresse le bilan des droits de l'homme dans le monde. 91 pays dans ce tour d'horizon, peut-être 93 même. Bonsoir, Kenneth Ross.
Hello.
Bonsoir. 91 ou 93, donc présenté cette année en France. Et la raison pour laquelle le directeur de Human Rights Watch est là en France, c'est précisément parce qu'il y a quelque chose de particulier chez nous aujourd'hui. Kenneth Ross, pour démarrer, évidemment, c'est jamais très optimiste, hein, un rapport de Human Rights Watch. Votre grande inquiétude, ce qui ressort, et on y viendra, c'est les montées du populisme. Enfin, quand même, la première phrase, c'est « La montée en puissance des populismes autoritaires paraît moins inéluctable qu'elle ne l'était il y a un an. » Donc vous avez une pointe d'optimisme quand même dans ce démarrage, Kenneth Ross.
Exactly. A year ago, it looked bleak.
Il y a un an, ça semblait très sombre. Donald Trump venait d'entrer à la Maison-Blanche et il semblait que la montée des populistes était inarrêtable. Mais au cours de l'année écoulée, ce qui était remarquable, c'est la résistance qui a émergé dans beaucoup de pays, qui a été capable d'arrêter dans une certaine mesure les dommages causés par les populistes et les autocrates. Et la raison pour laquelle on a choisi Paris pour dévoiler ce rapport, c'était que le tournant le plus visible était la campagne électorale d'Emmanuel Macron. Parce que, au contraire de beaucoup d'autres en Europe, il a lutté contre les populistes, non pas en essayant de les annihiler, mais en se distinguant d'eux et en embrassant les principes démocratiques.
Alors quand même, moi je vous trouve bien optimiste, parce que depuis l'élection de Trump, l'Autriche a 3 ministres d'extrême droite dans son gouvernement, l'extrême droite est rentrée au Bundestag, les populistes polonais, hongrois, n'ont pas été confrontés dans leur posture anti-migrant et la situation aujourd'hui n'est pas meilleure qu'elle l'était il y a un an. Je vous trouve finalement très optimiste.
Dans toutes ces situations, il y a eu une résistance énorme. En Allemagne, c'était en Bavière, une partie de l'Allemagne de l'Ouest, où l'APF a fait ses meilleurs scores, et c'est parce que la CSU n'a pas repoussé aussi fermement ces gens-là comme Merkel l'a fait. Avec la Hongrie et la Pologne, finalement, à la fin des fins, l'Union européenne a retrouvé sa voix et a commencé à défendre les droits humains et les principes démocratiques, même s'ils ont pris un peu de temps.
Dans chaque pays, en tout cas, ça parle de la même chose, et y compris d'ailleurs aux États-Unis que vous avez cité, ça parle de gens qui se sentent laissés pour compte, ça parle de gens qui ne sont pas dans la marche du monde telle que d'autres voudraient les voir. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose que nous avons, nous, raté dans notre part de responsabilité pour qu'on en soit là aujourd'hui ?
Je crois que les populistes répondent à des problèmes existants, mais ils n'y répondent pas, mais ils utilisent ces problèmes comme une excuse pour diaboliser les minorités et attaquer les principes des droits humains. Et je crois que nous avons tous été étonné par le succès de cette stratégie. Et je pense que nous sommes tous en faute. Tous ceux qui croient aux droits humains, pour ne pas les avoir défendus plus fortement précédemment, pour ne pas avoir plus travaillé pour la popularité des droits humains. Et je crois que la campagne de Macron a prouvé qu'une défense vigoureuse des principes démocratiques peut être très réussie.
Et en même temps, quand vous le voyez aujourd'hui évoluer, puisque effectivement vous l'avez expliqué, c'est la raison pour laquelle vous présentez ce rapport ici, on est en pleine polémique en ce moment, nous aussi, sur les lois sur l'immigration, sur qu'est-ce qu'on doit faire avec les migrants. Lorsque vous lisez ce qu'ils proposent, est-ce que vous avez l'impression que c'est un retour en arrière de notre part? Est-ce que vous trouvez cette position légitime?
Ce
que je vois dans la façon dont Macron gouverne, c'est quelque chose de mélangé, en fait.
Un résultat mélangé.
Regardez ce qu'il a fait à Calais, par exemple.
En même temps, comme on dit chez nous.
Mais ce qu'il a fait à Calais, il a parlé très clairement contre les abus de la police, contre les migrants. Très clairement, il a dit que personne ne devrait être renvoyé de force en Libye. Mais dans le même temps, il regarde les possibilités d'avoir véritablement des contrôles d'identité dans les abris pour migrants. Il accélère un processus silencieux qui pourrait devenir une justice sommaire plutôt qu'une véritable justice. Donc le défi pour Macron est véritablement de gouverner selon ses propres principes selon lesquels il a fait campagne.
Est-ce qu'il faut tordre le bras à ceux qui refusent, Kenneth Ross, selon vous, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque? Faut-il leur tordre le bras autour des migrants, obligés à accepter des gens?
Pour moi, il y a des problèmes avec des pays comme la Hongrie et la Pologne qui considèrent l'Europe comme leur petit cochon tirelire, finalement. Ils sont prêts à prendre les subventions de l'Union européenne, mais sans accepter les valeurs de l'Union européenne. Et je crois que ce que Bruxelles a trouvé, c'est que ce qui est à risque en Hongrie et en Pologne, c'est pas simplement comment ces pays sont gouvernés, mais c'est une attaque plus existentielle contre les valeurs qui sont la base du projet européen.
Est-ce que vous vous dites en creux qu'il n'aurait pas dû y entrer pour un certain nombre, ou pas, en Europe ?
Vous savez, l'Europe a beaucoup mieux fait en exigeant le traité de Copenhague pour rentrer dans l'Union européenne. Et il faut que, pour rentrer dans l'Union européenne, accepter ces standards de respect des droits humains. Mais Bruxelles se rend compte seulement maintenant comment faire en sorte que ces normes soient appliquées par ceux qui sont déjà dans l'Europe quand ces normes sont en recul, comme c'est le cas en Pologne et en Hongrie.
Est-ce que je vous ai entendu dire ici et là, notamment, et pour rester dans le même sujet, qu'il fallait revenir sur un certain nombre de réglementations, notamment cette fameuse réglementation de Dublin, qui oblige les gens qui arrivent en Europe à faire leur demande dans le pays où ils mettent le pied d'abord? Faut-il remettre à plat toutes ces choses-là, selon le point de vue de Human Rights Watch?
It's time to rip up the Dublin regulations.
Il est temps de mettre à plat, effectivement, les règles de Dublin. C'est ridicule que dans un pays comme la Grèce, qui est toujours au sein d'une crise économique, qu'on lui demande toute seule de recueillir 50 000 réfugiés, demandeurs d'asile, alors que l'Europe s'engage à les reloger et ne tient pas sa promesse. Donc ce qui est nécessaire, c'est véritablement un partage de responsabilité dès le début, un partage de responsabilité en prenant en compte les demandes et aussi dans le fait de recevoir ces gens-là.
Alors, si on avance dans le tour du monde qui est le vôtre, dans votre rapport annuel, on l'a déjà un peu évoqué, on arrive forcément, on ne peut pas y échapper, on arrive forcément jusqu'aux États-Unis. Vous parlez d'un moment de désespoir lorsque vous parlez de Donald Trump. Est-ce que ça veut dire que, de votre point de vue, la voix des États-Unis en matière de droits de l'homme s'est éteinte? Est-ce qu'elle existe encore ou est-ce que c'est fini?
C'est triste, mais les États-Unis n'ont plus leur crédibilité en tant que promoteurs des droits humains sous Donald Trump. Il parle encore des droits de l'homme pour les pays adversaires comme le Venezuela et l'Iran, mais ce n'est pas crédible quand on est tellement sélectif. Et en attendant, sur le plan intérieur, il renverse tous les tabous existants. Les tabous contre le racisme, le misogynisme, la misogynie, l'islamophobie. véritablement, il prend plaisir en faisant cela. Et très franchement, il a un goût insatiable pour, en faveur des hommes forts, comme Erdogan ou Abdelhamid el-Sisi ou Poutine ou d'autres.
Et en même temps, quand on regarde finalement ce bilan-là, et vous le soulignez aussi d'ailleurs, le Muslim Ban, donc l'interdiction d'entrée de certains musulmans, échoue, se heurte au mur de la loi quand même. Le fameux mur entre le Mexique et les États-Unis, on en parlait à l'instant dans le journal, tangue finalement, il y a beaucoup de choses qui ne pourront pas se faire. Le revirement sur la loi sur la santé d'Obama, il existe, mais finalement dans une ampleur beaucoup moins importante que ce qu'avait prévu Trump. Donc les institutions américaine. Tout ce qui compte ont l'air de fonctionner malgré tout face à ce Donald Trump.
Et bien c'est de là que nous tirons un certain optimisme par rapport à l'an dernier, parce que on a vu beaucoup de résistance aux États-Unis à l'arrivée de Trump à la Maison Blanche. Et l'on voit chez les leaders politiques, chez les juges, chez les journalistes, chez les militants, et même dans le public, comme la Marche des Femmes par exemple. Et en raison de cette très forte résistance, ce système d'équilibre aux États-Unis a fonctionné et a minimisé le mal que Trump a pu infliger.
Alors Kenneth Ross, sans surprise, parmi les pays que vous pointez et qui sont dans les pires difficultés, la Syrie, le Yémen, évidemment, on va y revenir. Un mot sur la Birmanie, est-ce que nous sommes trop timorés, nous, vis-à-vis de la Birmanie et leur façon de traiter les Rohingyas ?
Le grand problème en Birmanie, c'était que le monde a mis trop de confiance en Aung San Suu Kyi. Elle n'est pas responsable de ce nettoyage ethnique des Rohingyas. C'est l'armée birmane qui l'a commis. Mais Aung San Suu Kyi a refusé de critiquer ce nettoyage ethnique. Et ce qui est nécessaire maintenant, c'est des sanctions économiques ciblées contre les dirigeants militaires. Mais l'Occident s'attendait à ce que Aung San Suu Kyi le demande, mais elle ne va jamais le faire. Et donc il est temps d'agir de notre point de vue et d'arrêter de trouver un leadership chez quelqu'un qui ne le fera jamais.
Mais elle vous déçoit ? Est-ce qu'elle vous déçoit ? Human Rights Watch, vous êtes co-lauréat du prix Nobel de la paix, vous aussi, c'était en 97. Elle l'a aussi, ce prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi. Dans ce petit club très fermé auquel vous appartenez l'un et l'autre, est-ce qu'elle vous déçoit terriblement ?
Je ne désespère pas, parce que je vois chaque jour comme il est possible de repousser les choses. Les droits humains, vous savez, c'est dérangeant pour les dirigeants politiques. Ça rend difficile de nettoyer les pouvoirs. Mais le rôle du mouvement des droits humains est de rendre les abus des droits humains beaucoup plus chers. Donc c'est une lutte constante. Mais c'est une lutte que nous gagnons. Et nous continuons à gagner. C'est pour ça que nous continuons. Et c'est pour ça que je ne suis pas désespéré.
Voilà, vous continuez à gagner cette lutte, selon vous. Quand vous regardez, y compris la Syrie, le Yémen aujourd'hui, vous vous dites, cette lutte, on est quand même en train de la gagner. À minima, au moins, vous vous en parlez. C'est déjà ça de prix.
Il y a des problèmes énormes en Syrie actuellement. Vous savez, Assad est dans le processus de déplacer 390 000 personnes. Au Yémen, la coalition saoudite est en train de bombarder 7 millions de personnes. Et il y a véritablement... Les gens ne veulent pas mettre la pression sur les Saoudiens parce que le pétrole. Il y a véritablement, les gens ne sont pas prêts à faire pression sur Poutine pour d'autres raisons. Mais notre travail est de rendre de plus en plus difficile de fermer les yeux sur ce genre de processus.
La grosse difficulté pour ne pas fermer les yeux, probablement le pays le plus difficile, c'est le Yémen, non, où personne ne peut rentrer, ni vous, ni nous d'ailleurs, ou en tout cas avec de très grandes difficultés.
En fait, Human Rights Watch peut rentrer au Yémen de temps en temps. Le problème, c'est que l'Arabie saoudite est très riche. Et les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France veulent continuer à vendre des armes aux Saoudiens, même si ces armes sont utilisées pour tuer des civils yéménites. Ce qui est intéressant l'année dernière, c'est que les Pays-Bas, c'est pas une grande puissance, a dirigé un effort pour lancer une enquête internationale sur les crimes de guerre saoudiens au Yémen, sans véritablement d'aide sérieuse des Américains, des Français ou des Britanniques. Donc parfois, le leadership vient d'endroits inattendus.
Qu'est-ce que vous regardez particulièrement pour 2018? Forcément, ces sujets-là, on y reviendra. 2018, ce sera aussi une année russe, puisqu'on a des élections en Russie à venir. Quel est le focus de Human Rights Watch, l'endroit que vraiment vous regardez pour 2018?
Tout d'abord, il n'y aura pas d'élection en Russie. Ce sera vraiment... Il s'est débarrassé de tous les concurrents.
Une sorte de désignation, effectivement.
Mais la Russie, la Chine, et on pourrait conclure là, c'est qu'il y a deux personnes, Poutine et Xi Jinping, qui se présentent comme des hommes forts, des mecs durs. Et ce sont deux dirigeants qui ont peur de leur peuple et qui mettent des efforts énormes pour éviter que les gens se parlent les uns aux autres, qu'ils parlent en public ou qu'ils descendent dans la rue.
Et
ce n'est pas un avenir positif pour des pays où les gens ne veulent pas entendre parler des gens.
Tiens, si on terminait sur une note un peu positive, vous l'avez un tout petit peu évoqué en parlant de la manifestation des femmes, notamment à Washington au moment de l'investiture. Il y a évidemment cette grosse année MeToo et tout ce qui tourne autour de ça. Est-ce qu'on peut dire que quelque chose a changé? On est dans une année charnière et qu'allez savoir, 2018 aussi peut être l'année où certains nombres de femmes prennent aussi leur part à la fois de pouvoir et de responsabilité.
Je crois que tout le mouvement des femmes a été très positif. Tout d'abord, il a rendu beaucoup plus public tous les problèmes de harcèlement sexuel. Et cette prise de conscience est une étape essentielle pour y mettre un terme. Mais nous avons vu également des pas positifs pour les droits des femmes en Tunisie, en Jordanie et au Liban.
Un peu en Arabie Saoudite même.
L'Arabie Saoudite a permis aux femmes de conduire, c'est bien, mais elles sont encore traitées comme des enfants, parce qu'il faut qu'il y ait la permission d'un homme pour faire quoi que ce soit. Mais je disais qu'en Tunisie, en Jordanie et au Liban, ils se sont débarrassés de les lois disant que les violeurs pouvaient épouser leurs victimes pour éviter des poursuites. Ça, c'est quelque chose de positif.
Et bien voilà, c'est sur cette note positif qu'on en termine. Kenneth Ross, merci beaucoup. Merci mille fois de votre passage dans Un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde.
La suite, c'est en Russie avec un film qui en dit long, vous le verrez, sur l'état d'esprit des Russes vis-à-vis des Américains aujourd'hui. L'histoire, c'est Florence Parakolos qui la raconte. En reportage, nous allons dans les coulisses des late shows qui sont devenus nettement plus politiques aux États-Unis qu'ils l'étaient. L'actu média de la semaine dans le monde. Alexandra Hakoun, bonsoir.
Bonsoir.
Avec, par exemple, le fameux palmarès des fake news de Trump qui a un peu fait flop quand même.
Eh ben oui, quand même, parce qu'il a été un peu contrecarré hier, notamment au Sénat, par le sénateur de l'Arizona, Jeff Flake, vous verrez, dans un discours assez magistral.
Allez, on verra ça dans un instant. Tiens, j'ai oublié de remercier Michel Jlotowski pour la traduction, et quand même, il fallait le faire, et on l'embrasse. Elle s'appelle Souchela Rahman, Maya, sur France Inter.
My eye, solitude.
Mouchel Rahman, Maya sur France Inter.
France Inter.
Good evening and welcome.
Я размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Et sous les radars, Florence Paracuelos, l'actualité internationale des pages intérieures dénichée par vous. On va au cinéma à Moscou d'abord.
Eh ben oui, on va voir le carton total absolu du box-office russe. 4,5 millions d'entrées depuis le 28 décembre. C'est Vyjnye Verk, aller vers le haut en français. Wow. Vous apprécierez l'accent.
Oui, oui, total.
L'histoire de l'équipe de basket russe qui a battu les États-Unis aux Jeux Olympiques de 72.
У сборной должен уйти страх. Они должны поверить, что можно обыграть американцев.
Alors c'est une épopée, ce film, la route vers cette improbable victoire soviétique à Munich contre les basketteurs américains, un match rocambolesque. Les Américains mènent d'un point à 3 secondes de la fin de la partie. Les Russes n'arrivent pas à égaliser. Ils vont obtenir 3 secondes de plus, mais toujours pas de panier. Et le chronomètre a des ratés. Alors l'arbitre leur offre une dernière chance aux Russes. 3 dernières secondes supplémentaires qui leur permettent de conclure 51 à 50. L'équipe soviétique de basket devient championne olympique. Les plus hauts dignitaires à Moscou n'en attendaient pas tant. Mais le match restera controversé. Les États-Unis n'ont jamais reconnu leur défaite. Alors le film, évidemment, surfe sur le patriotisme. Dans un climat au relent de guerre froide en ce moment. Dans un climat aussi, dans un moment où le sport russe est laminé par les affaires de dopage, où la Russie n'ira pas aux JO d'hiver dans 3 semaines. Mais il n'élude pas la condition des Russes de l'époque, c'est pas complètement lénifiant. On voit des joueurs au salaire dérisoire qui emportent des boîtes de caviar aux États-Unis pour les revendre et acheter du fil à tricoter parce qu'il n'y en a pas en Union soviétique. Alors au-delà du côté politique, si ce film est déjà le plus rentable de l'histoire du cinéma russe, ben c'est peut-être tout simplement que c'est un bon film.
Eh ben chiche, hein. Et chiche.
Alors
qu'on va
il
n'est pas,
programmé en France. Je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas ce qu'il va devenir. Peut-être.
Eh ben, on demandera à Eva Béton.
Aller savoir. Mais en tout cas, ça a l'air de bien tenir la route.
Eh ben écoutez, si peut-être que c'est bien, comme vous dites. On reste à l'est, en Croatie cette fois.
À Rijeka, port de l'Adriatique, où un bateau pourrit depuis 1980. Ce bateau, c'est le Galeb. C'était le yacht du maréchal Tito, mangé par la rouille. La ville va en faire un musée de ce bateau de 177 mètres de long. Il en a vu des choses. Il a transporté Elizabeth Taylor et Sophia Loren. Il a fait le voyage de Londres, mais oui, remontant la Tamise, pour le premier déplacement d'un chef d'État communiste chez Churchill.
Now aboard his country's training ship Galeb or Seagull.
Eh oui, les actualités de l'époque en 53.
J'adorerais tellement vous faire l'émission comme ça.
Descend de son yacht et donne son premier discours sur un quai de Londres. Dans ce même bateau, quelques années plus tard, il recevra Nasser, Nehru et Sokarno pour créer le mouvement des non-alignés. C'est donc un morceau d'histoire qui sera réhabilité et dédié à l'histoire de la Yougoslavie et de la Croatie. Ce sera pas un musée Tito, promet le maire de la ville de Rijeka. Ça n'est pas du tout la tendance du moment. En septembre, la place Tito a été débaptisé à Zagreb sous la pression des nationalistes croates.
Allez Florence, mais rien à voir, de chez rien à voir. Attention, OVNI, vous avez déniché une sorte de perle sur une web radio britannique.
Et oui, imaginez un mélange de Jean-Claude Amezen, notre chercheur sur les épaules de Darwin, de la quatrième dimension et d'une messe pour le temps présent façon 2018. Ça donne The Outer Limits, 6 épisodes d'une heure signés Jeff Mills, pape de la techno, en partenariat avec la NASA. 6 heures de science-fiction et de création musicale.
We'll start with exploring the theory of a parallel reality, similar to the theory of a parallel universe or multiverse. This alternative reality bears similarities to the reality.
Le premier épisode a été diffusé et mis en ligne hier sur NTS. C'est pas de la fiction radio.
L'univers parallèle, c'est la quatrième dimension.
C'est ça. C'est un produit tout à fait indéfinissable. La musique est très présente, plus présente que le texte. Une sorte de musique cosmique, électro et acoustique, parce que Jeff Mills fait jouer des musiciens classiques et des musiciens de jazz. C'est absolument planant. Là, on est dans le trou noir, Fabienne, de Black Hole, c'est le nom de ce premier épisode. Et puis tout à coup, on bascule dans une petite mécanique céleste. Conte musical hypnotique que ce projet de la web radio NTS. C'est vraiment spectaculaire d'un point de vue auditif. Alors, on trouve cette radio NTS sur Internet, Web Radio NTS. Vous pouvez aller l'écouter pour patienter avant le deuxième épisode qui ne sera pas diffusé avant le mois de mars. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de production derrière cet objet.
Vraisemblablement. Voilà. Bon, écoutez, on ira écouter...
Il faut être un petit peu anglophone, mais je trouve que même si on l'est pas, ça met dans une ambiance et une atmosphère qui vaut le détour.
Eh ben écoutez, on ira écouter, on vous racontera ça, puis vous nous raconterez surtout le deuxième épisode maintenant, Florence, ça y est, on est accro. Merci beaucoup.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Plus de gens manifestent contre vous que contre le cancer. Vous parlez comme un gorille qui aurait pris un coup dans la tête. Votre bouche ne sert à rien, si ce n'est à garder au chaud la... de Vladimir Poutine. Votre bibliothèque présidentielle, ce sera un menu d'enfants et des magazines porno. La seule chose plus petite que vos mains, c'est votre déclaration d'impôt. Et prenez tout ça comme vous voulez.
Voilà, vous l'avez compris, le reportage d'un jour dans le monde vous emmène dans les coulisses des late shows américains. Ce soir, ce que vous venez d'entendre et qui n'est pas piqué des verres, c'est le monologue de Stephen Colbert dans le late show de CBS. Bonsoir Loïc Piala.
Bonjour.
Bonjour Loïc, les late shows, donc on l'explique un petit peu, c'est la télévision de la nuit, mais c'est presque aussi vieux que la télévision tout court aux États-Unis. Une causerie derrière un bureau avec le fameux mug installé sur le même bureau, celui du présentateur. Et ça commence donc par un monologue qui jusque-là était juste très drôle, mais depuis 9 mois, les humoristes des late shows ne peuvent pas laisser la politique de côté. Et Trump a réellement changé la couleur des late shows, c'est ce qu'on voit ensemble Loïc.
It's the late show.
Tête de premier de la classe avec ses lunettes et sa raie sur le côté, Stephen Colbert est surtout un visage de la résistance. Le comédien a pris les commandes du Late Show il y a 2 ans, en lieu et place de la légende David Letterman. Au début, les audiences sont déçues et puis l'humoriste a trouvé son rythme et surtout le bon filon.
Le président Trump a été très dur avec les immigrés, mais il n'a pas seulement été question d'expulsion, il a aussi détenu des étrangers contre leur gré. Sa femme Melania par exemple.
Tous les soirs de la semaine, juste après 23h30, ces monologues n'épargnent rien au président américain. 10 minutes pendant lesquelles il se moque de ses discours, de sa personnalité et de ses tweets.
Plus de gens manifestent contre vous que contre le cancer. Vous parlez comme un gorille qui aurait pris un coup dans la tête. Votre bouche ne sert à rien, si ce n'est à garder au chaud la... de Vladimir Poutine. Votre bibliothèque présidentielle, ce sera un menu d'enfants et des magazines porno. La seule chose plus petite que vos mains, c'est votre déclaration d'impôt. Et prenez tout ça comme vous voulez.
Avant de rejoindre une chaîne grand public, Colbert est passé par le Daily Show, la référence des émissions mélangeant humour et politique. Alors pour John Baptiste, le musicien qui l'accompagne sur la scène du Ed Sullivan Theater à New York, le comédien reste tout simplement fidèle à sa nature.
C'est une émission sympa, mais on doit être vrai. Quand il se passe des choses dans le monde, on doit en parler, parce qu'on a une plateforme. Et cette plateforme, il faut en faire quelque chose de positif. Steven, il dit ce qu'il pense de ce qui se passe dans le monde, sans mentir.
La politique n'a rien d'organique à cet horaire. Les grands noms du genre, Johnny Carson, Jay Leno, Letterman, n'en parlaient quasiment jamais ou jamais sérieusement. Tom Holland est professeur de communication à l'Université de Californie du Sud.
Ces émissions sont supposées être légères et drôles. Mais aux États-Unis, à peu près tout est politique en ce moment.
Seth Meyers anime le talk show de minuit et demi sur NBC.
Ceux d'entre nous qui ont des prédispositions pour la politique vont en parler de toute façon. Mais il y a tellement plus de choses à dire qu'avant.
Après l'élection de Donald Trump, il a prévenu qu'il gardera un œil sur les actions de son administration. Promesse tenue.
It's time for a closer look.
Dans A Closer Look, il commente les événements du jour, comme lorsque Trump s'est vanté devant les journalistes de son état de forme malgré un long séjour en Asie.
12 jours ? Est-ce que quelqu'un lui a parlé de Keith Richards ? Ça fait 50 ans que ce gars fait des tournées. Il a l'air plus en forme que vous.
Les rares talk-shows qui esquivent la politique voient leur audience baisser, et certains n'ont pas le choix. En mai dernier, Jimmy Kimmel, star de la chaîne ABC, a évoqué en larmes les soins reçus par son bébé atteint de difficultés cardiaques. Le monologue a été interprété comme un plaidoyer pour l'assurance santé pour tous.
Et pour ceux qui vont m'accuser sur Facebook de politiser les problèmes de santé de mon fils, sachez que oui, je les politise, parce qu'il le faut. Ma famille a une assurance. Ce n'est pas un problème pour nous, mais c'est un problème pour d'autres. Alors vos messages, vous pouvez vous les mettre là où le proctologue ne vous fera pas d'examen une fois que vous aurez perdu votre assurance.
Jimmy Kimmel, incarnation de l'Américain moyen jusque-là, a viré militant Tom Holland.
Le sujet a allumé quelque chose en lui et je crois que ça a changé sa vision de son rôle. Il est devenu un porte-parole pour ceux qui n'ont pas forcément prêté attention à ce que la réforme de l'assurance santé implique.
Mais Trump reste le sujet numéro un de la dizaine de talk-shows des grandes chaînes et du câble, Seth Meyers.
Les comédiens sont probablement plus à même de parler de Donald Trump que les journalistes. Parce que nous n'avons aucun principe et ce président non plus, donc ça colle plutôt bien.
À force de parler de l'actualité, ces émissions sont devenues une source d'information pour la jeunesse américaine. Sur la chaîne câblée HBO, Last Week Tonight a même le temps et les moyens de faire des enquêtes fouillées, mais Tom Holland s'interroge.
Les gens qui disent s'informer avec ces programmes-là ont aussi tendance à être plus cyniques quand il s'agit de politique, et ça peut être un problème. Le cynisme n'est pas forcément bon pour une démocratie. Le scepticisme, oui. Le cynisme, pas vraiment. Si les émissions en font trop et détournent les gens de la politique, on risque de voir la participation aux élections baisser plus encore. Le contrat social qui nous lie les uns aux autres pourrait en pâtir.
Pas dit que la politisation des talk-shows survive à la fin du ou des mandats de Donald Trump, ou pour paraphraser Jimmy Kimmel, pas sûr que l'Amérique survive à son président.
Cynisme contre scepticisme, à vous de voir Loïc Piala dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. On reste à New York, tiens, avec Grégory Coporteur. Pick up yourself.
Pick yourself up. Take a deep breath. Dust yourself off. Start all over again. Nothing's impossible, I have found. For when my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, and start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Be grateful for a pleasant trip, and pick yourself up, dust yourself off, and start all over again. Work like a soul inspired till the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous men who had to fall to rise again? So pick yourself up. Take a deep breath. Dust yourself off. Start all over again.
Et respire un grand coup et prends-toi en main. En gros, c'est ce que nous dit Grégory Porter. Et comme dirait Alexandra Akun, effectivement, ça fait très New York sous la neige. Power Hit
Radio. BBC News. Al Jazeera. CBS Morning News.
France Inter. Public Broadcasting. Le 18-20.
Equals more reasons to watch.
Un jour dans le monde.
Alexandra, les médias, les fake news, le buzz sur la toile, dans les journaux de la planète. On commence comme d'habitude avec les fake news de la semaine. Cette fois-ci, les fake news awards décernés hier par Donald Trump.
Eh ben oui, il l'avait promis, il l'a fait. Le président américain a publié hier soir sur Twitter son palmarès tout personnel des médias les plus mensongers. Grand gagnant, sans surprise, la chaîne d'information CNN, bête noire de Trump, citée quatre fois, suivie du New York Times, du Time Magazine, de la chaîne ABC, du Washington Post et de Newsweek. Ce palmarès était attendu, mais comme d'habitude, côté républicain, personne n'a bronché. Exception faite, quelques heures plus tôt, du sénateur de l'Arizona, Jeff Flake, qui a délivré au sein même du Sénat un discours magistral.
2017 a été l'année où la vérité, objective, empirique et basée sur des faits, a été la plus bousculée et la plus maltraitée dans l'histoire de notre pays, aux mains du personnage le plus important de notre gouvernement. L'ennemi du peuple, c'est ainsi que le président des États-Unis a qualifié la presse en 2017. Monsieur le Président, c'est dire l'état de notre démocratie quand notre propre président utilise des mots tristement prononcés par Joseph Staline pour décrire ses ennemis. C'est le despotisme qui est l'ennemi du peuple. Quand une personne au pouvoir qualifie systématiquement tout média qui ne lui plaît pas de mensonger, c'est cette personne qui devrait être suspecte, pas la presse.
Violente charge également de John McCain, ancien candidat républicain à la présidentielle, aujourd'hui atteint d'un cancer du cerveau. Dans les colonnes du Washington Post, il a dénoncé l'attitude incohérente, voire hypocrite, de l'administration américaine vis-à-vis de la liberté de la presse.
Allez, Alexandra, en Slovaquie, c'en est fini de l'investigation à la télévision publique.
Reporteri, c'était le nom du très populaire et dernier magazine d'investigation sur la RTVS, la chaîne publique slovaque. La nouvelle direction a décidé en début de semaine de le suspendre suite à un reportage critique sur une organisation culturelle financée par des fonds publics et proche du SNS, parti membre de la coalition au pouvoir. Une coalition menée par Robert Fico, charmant Premier ministre qui en 2016 alors contentait de l'interroger sur sa gestion des fonds publics, avait traité des reporters de sales prostituées anti-slovaques.
Grande classe. Eh ben, hein. Donc direction la Turquie, où décidément où un signe d'espoir, là, pour le coup, concernant la liberté de la presse, se fait toujours attendre.
Et pourtant, on y a cru, hein, quand on a appris la semaine dernière la libération des journalistes Sayın Alpan et Mehmet Altan. Simple effet d'annonce, puisque 7 jours plus tard, et malgré une décision de la Cour constitutionnelle, juridiction suprême, ils n'ont toujours pas été libérés. Pire, mardi, 5 journalistes, dont un ancien correspondant du journal Libération, ont été condamnés à de la prison ferme pour propagande terroriste. La Société des journalistes et des personnels de Libération a dénoncé un jugement inique. Les 5 accusés restent en liberté en attendant un verdict en appel, ce qui pourrait prendre plusieurs mois.
L'Italie devant sa télévision, ce sera demain soir.
Événement sur la chaîne italienne Fox Crime, alors je ne sais pas comment on dit, hein, peut-être Fox Crime, le premier épisode de la série American Crime Story, série américaine qui, après O.J. Simpson, s'attaque cette saison à l'assassinat du couturier Gianni Versace. C'était il y a tout juste 20 ans à Miami. Bande annonce. Une fiction déjà amplement critiquée dans la presse italienne par la famille Versace, à commencer par la sœur du couturier, la toute puissante Donatella. Ils ont pourtant été sympas avec elle dans la série, puisqu'elle est interprétée par la sublime Penelope Cruz quand même. Elle est furieuse que son frère en tout cas soit présenté comme séropositif, un buzz qui devrait permettre à la série un score d'audience plus que sympathique.
Et puis en Grande-Bretagne, c'est une autre histoire qui fait le buzz.
Celle d'un veuf à qui, avant de mourir, sa femme, prénommée Phèdre, a demandé de prendre soin de ses plantes vertes. Ce qu'il a fait religieusement, jusqu'à s'apercevoir que les dites plantes étaient en plastique. Histoire racontée par sa londonienne de fille sur Twitter avant-hier. Et depuis, elle a été partagée, cette histoire, plus de 32 000 fois, likée à 104 000 reprises. Comme quoi on peut s'appeler Phèdre et avoir un sacré sens de l'humour.
Mais parce que l'adresse l'emporte toujours sur la force. C'est du Phèdre. Merci beaucoup.
Le 18-20. Fabienne Saintès sur France Inter.
Allez, la chronique du journal Le Monde signée Corinne Laine ce soir depuis San Francisco. Bonsoir Corinne.
Bonsoir Fabienne.
Mobilisation Corinne en Californie cette semaine. Pour une fois, c'est pas contre l'administration Trump, mais contre Starbucks, la chaîne de café qui a prévu de s'installer dans le parc national du Yosemite, l'un des joyaux naturels du pays, ce qui ne fait évidemment pas l'unanimité.
Oui, alors pour planter le décor, donc le Yosemite, c'est à 300 km à l'est de San Francisco, dans la Sierra Nevada. 5 millions de visiteurs l'an dernier. Ce n'est pas le parc le plus fréquenté, mais c'est l'un des plus photogéniques, avec sa montagne de granit coupée en deux, le fameux Half Dome. Ses séquoias géants et la cascade la plus impressionnante d'Amérique du Nord, 740 mètres de haut. Surtout, c'est un symbole, c'est la quénélidée de préservation des espaces naturels à la fin du 19e siècle. L'idée d'écologie, autrement dit. Dans la foulée, le Congrès a créé le service des parcs nationaux, le NPS, en 1916. Aujourd'hui, il y a 59 parcs qui s'ajoutent aux 350 monuments nationaux, soit 310 millions de visiteurs l'an dernier, un record absolu. Mais l'ennui, c'est que le Congrès n'a pas imposé de mécanisme de financement. Les parcs sont en déficit chronique, victimes de leur succès et, il faut bien le dire, de la convoitise des compagnies minières, des bûcherons et des adeptes des scooters des neiges.
Alors, d'où le plan café dans le Yosemite.
Oui, le projet est d'ouvrir un Starbucks au Yosemite Valley Lodge, l'un des petits centres commerciaux gérés par le concessionnaire privé qui gère les services donc dans le parc. Il ne s'agit que d'une simple boutique, mais les opposants y voient la porte ouverte à l'invasion des parcs par les multinationales. Plus de 20 000 personnes ont déjà signé la pétition anti-Starbucks. Comme le disent les signataires, dans les parcs nationaux, buvez de l'eau.
Oui, alors pourquoi pas boire de l'eau ? La question, c'est comment rentabiliser les parcs alors ?
Oui, toutes les administrations se sont heurtées à la question. Barack Obama avait ouvert la porte en 2016 à un programme de partenariat. Les marques qui aident les parcs financièrement voulaient plus de visibilité. Il avait été décidé que leur nom pourrait s'étaler sur les équipements. Subaru aurait son logo sur les 4x4 des Rangers. Coca-Cola dans l'auditorium du Yosemite devant le tollé. Le plan n'a pas été mis en place. L'administration Trump, elle, a décidé de doubler le prix d'entrée. De $30, elle va passer à $70 par véhicule. Cette augmentation va rapporter $70 millions. Ça paraît beaucoup, mais c'est une goutte d'eau par rapport au déficit, soulignent les critiques. Et surtout, ça risque de décourager encore un peu plus ceux qui pensent que les parcs ne sont que des privilèges pour riches et bobos écolos. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si le parc le plus visité est le seul à être gratuit. Il s'agit du Smoky Mountains dans les Appalaches. 11 millions de visiteurs, deux fois plus que le parc du Grand Canyon. Mercredi, la question a pris une tournure politique. 9 des 12 membres du Conseil des parcs nationaux, un organisme consultatif qui existe depuis 1935, ont annoncé leur démission. Depuis l'arrivée de Trump, personne ne les a jamais réunis ni consultés, ni sur le doublement des prix, ni sur l'annulation des circulaires sur le changement climatique qui avait été décidé par Obama. Exemple, on va pouvoir de nouveau acheter des bouteilles d'eau en plastique dans les parcs pour se désaltérer après le café.
Merci beaucoup, Corinne Laine, en direct de San Francisco pour Un jour dans le monde.